Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Ce matin, nous allons voir deux textes, un texte dans Ésaïe et un texte dans l'évangile de Luc, qui nous montrent ce que le fait d'entrer dans la présence de Dieu peut produire dans la vie d'un homme. Amen. Et si ça produit quelque chose dans la vie d'Ésaïe et même dans la vie des trois apôtres, donc que nous allons voir Pierre, Jacques et Jean, cela a produit vraiment quelque chose dans leur vie. Vous savez, on aime le Seigneur, on aime l'Église, on aime être béni, on aime venir dans sa présence. Mais que ce ne soit pas juste quelque chose que l'on goûte et on repart et on continue comme avant. C'est comme si on vient à l'hôpital pour être guéri et que, en fait, la raison pour laquelle on était malade, c'est qu'on avait pris quelque chose avec du poison. Vous savez, il y a des fois des choses qui empoisonnent. Par exemple, si tu bois de l'eau qui n'est pas vraiment bonne, tu bois de l'eau qui est sale, tu vas avoir des amibes ou le choléra ou n'importe quelle maladie. Il y a parfois de l'eau qui est polluée et même dans certains pays, des produits industriels, ce qui pollue l'eau, des produits chimiques, et ça crée un empoisonnement. Alors, tu vas à l'hôpital pour te faire soigner, tu es guéri, mais dès que tu sors de l'hôpital, tu retournes et tu rebois à la même source. Et en fait, on voit que les chrétiens, certains chrétiens, viennent à l'église, ils viennent dans la présence de Dieu, ils sont bénis, ils sont guéris, ils sont soulagés, ils sont encouragés, et ils ressortent de là, ils retournent dans les mêmes systèmes qui les détruisent, même système d'empoisonnement. Et il y a des gens qui s'empoisonnent plus que d'autres. Et il faut qu'ils reviennent pour pouvoir être encore secourus, et ils retournent et tout recommence. Mais ce que j'aimerais ce matin, c'est qu'on puisse voir ces textes et cette prise de conscience. Vous savez, quand on expérimente Dieu et qu'on l'expérimente vraiment, ça change nos vies. Ça change nos vies pour toujours. Pas pour 5 minutes, pas pour le temps où on est à l'église, mais ça la change pour toujours parce que ça nous change à l'intérieur. Et pour que les choses de nos vies soient changées à l'extérieur, il faut d'abord et avant toute chose que l'on soit changé à l'intérieur. Amen. Et si on peut avoir cette prise de conscience, je vous assure que ça va vraiment aider beaucoup de personnes. On lit ensemble dans Ésaïe chapitre 6. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. » Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Ensuite, verset 8, il est dit, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Là, il y a vraiment, dans ce passage, une expérience extraordinaire, une expérience authentique, une expérience profonde. Amen. Une expérience qui a changé la vie de cet homme pour toujours. On ne peut pas parler de nouvelle naissance parce que là, il n'y a pas de nouvelle naissance. Dans l'Ancien Testament, il n'y a pas de nouvelle naissance. Mais on voit à certains moments des hommes qui ont expérimenté quelque chose de profond et de puissant avec Dieu. Là, Ésaïe voit le Seigneur. On peut parler de Moïse. Moïse qui voit Jésus dans le buisson ardent Et le moment où Moïse a vu le Seigneur, sa vie a été complètement changée. Changée. Et Dieu veut changer nos vies parce qu'il nous aime. La raison pour laquelle Dieu veut changer nos vies, c'est parce qu'il nous aime. Continuellement, nous sommes dans des systèmes de vie dans lesquels nous sommes empoisonnés par nos façons de penser, par nos façons de parler, par nos façons d'agir ou de réagir face aux circonstances. Et parfois, on s'en rend compte, mais on s'en rend compte trop tard. On s'en rend compte une fois qu'on s'est laissé bouffer par des pensées qui nous détruisent. On s'en rend compte une fois qu'on a dit des choses que l'on regrette d'avoir dites après coup. On s'en rend compte une fois qu'on voit les conséquences de nos décisions et de nos actions. Et ces choses arrivent parce qu'il y a un manque de Dieu dans nos vies. Il y a un manque de Dieu évident. Si Dieu est là et que la plénitude de Dieu est en toi, tu vas penser correctement, tu vas parler exactement ce qu'il faut dire, rien de plus, rien de moins, et toutes tes actions seront puissantes dans le Seigneur. Et c'est ce que le Seigneur veut faire pour ta vie. Pour chacun d'entre nous, c'est ce que Dieu veut faire parce qu'il nous aime, parce qu'il veut que la gloire de Christ brille en nous et au travers de nous. Quand on regarde, il y a vraiment un certain nombre de choses saisissantes par rapport à cette expérience qu'Ésaïe fait. D'abord, rien ne laisse supposer que Ésaïe va voir le Seigneur. Le Seigneur ne lui dit pas une semaine avant, dans une semaine, tu vas me voir, prépare-toi. Quand on voit que des hommes ou des femmes, des personnes ont fait de telles expériences avec Dieu, c'était pas prévu. C'était pas dans leur calendrier. Quand on regarde par exemple dans l'Apocalypse, on voit Jean, le jour du Seigneur, c'est-à-dire le dimanche, au moment où il ne s'y attend pas, il a une vision. Il a d'ailleurs une série de visions extraordinaires, des choses qui n'étaient pas prévues. Amen. Amen. Dieu aime nous surprendre. Il aime nous surprendre. Et là, Ésaïe a été surpris. Il a vu le Seigneur, il n'a pas vu la face de Dieu, il a vu les pans de sa robe qui remplissaient le temple et il a vu des séraphins. Et ces séraphins étaient tellement saisis par la gloire de Dieu quand ils voyaient la face du Seigneur. La seule chose qu'ils pouvaient dire, c'est « Saint, Saint, Saint ». C'était pas « bon, bon, bon » ni « grand, grand, grand », mais c'était « Saint, Saint, Saint » et le Seigneur. Et Dieu est un Dieu saint. Et s'il y a une chose dont l'Église, d'une manière générale, l'Église du 21e siècle, de tous les pays du monde, l'Église a besoin de la révélation de la sainteté de Dieu. Pourquoi est-ce que on entend tellement d'histoires dans les églises? Des pasteurs qui volent l'argent de l'Église, des dirigeants de groupes de louanges qui mettent des filles enceintes, des chrétiens qui vivent dans le désordre et dans le péché. Quand je parle des pasteurs ou des dirigeants, c'est parce que quand ces histoires arrivent, tout le monde est au courant. Alors que quand c'est un simple membre de l'Église, souvent on peut être au courant comme on peut ne pas être au courant, parce que les gens savent bien cacher leurs fautes et leurs péchés. Mais qu'on soit au courant ou pas au courant, de toute manière, la réalité est claire. Pourquoi est-ce que l'Église vit dans le péché et dans le compromis? Et je ne dis pas que ça concerne tout le monde, mais ça concerne un certain nombre de personnes, et vous êtes, comme moi, parfaitement au courant. Pourquoi? Parce que ces gens n'ont pas de révélation de la sainteté de Dieu. Ils aiment Jésus comme on aime les brochettes, comme on aime les Fanta, comme on aime le chocolat, comme on aime les bonbons. Oui, Jésus est bon. Quand je viens, ça me bénit, ça me fait du bien, ça m'encourage. Ils prennent Jésus comme on prendrait un outil, quelque chose dont on a besoin pour nous faciliter la vie. Mais n'ont pas de révélation de la sainteté de Dieu. Quand on a cette révélation de la sainteté de Dieu, cela crée dans l'homme une crainte terrible. Amen. Même l'apôtre Jean, on parle d'Ésaïe, Ésaïe, il a eu vraiment peur. Il a vraiment eu peur quand il a vu le Seigneur dans le temple. Mais quand on parle de Jean, c'est exactement la même chose. Jean, l'apôtre de l'amour, celui qui dormait, qui posait sa tête sur la poitrine de Jésus. Jean, quand il a vu Jésus dans sa gloire, il a eu peur. Il a eu peur. On lit dans Apocalypse chapitre 1, verset 10, « Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournais pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retournée, je vis sept chandeliers d'or. Et au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige. Non pas parce qu'il était vieux, mais parce que la gloire était tellement resplendissante, comme lorsque Jésus va sur la montagne et qu'il est transfiguré, il devient éclatant, resplendissant. Tellement qu'il n'y a pas de, comme le dit la Bible, de foulon sur la terre qui puisse blanchir les habits à ce point. Et Jésus était tellement couvert de la gloire, il resplendissait de cette gloire, qu'il en était devenu blanc, que ses cheveux étaient blancs. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite sept étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants, et son visage était comme le soleil qui brille dans sa force. Quand je le vis, je m'écriai, « Oh, c'est toi Jésus !» Il n'y a pas écrit ça dans la Bible. Il a écrit « Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort, comme mort. » Vous pouvez lire même Ézéchiel aussi, il a vu le Seigneur. Il est tombé par terre comme mort, comme mort. Et voici, il posa sur moi sa main droite en me disant « Ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas. » Quand on voit le Seigneur, on est saisi de crainte et d'effroi parce qu'on voit la grandeur et la gloire de Dieu à côté de notre faiblesse, de notre médiocrité, de nos erreurs et parfois même de nos péchés. Et ça crée vraiment un contraste. C'est comme si vous prenez un glaçon que vous le mettez dans la friteuse. Vous savez, l'huile bouillante quand on veut faire des frites. Quand on veut faire des frites et qu'on met les pommes de terre dans l'huile bouillante, si on a le malheur de ne pas bien essuyer les pommes de terre qui a un petit peu d'eau, alors ça bouillonne et ça déborde et c'est même d'ailleurs très dangereux. Mais imaginez que vous preniez des glaçons et que vous les mettiez dans l'huile bouillante. Je vous assure que les glaçons, en même pas 3 secondes, ils sont déjà finis. Et en plus, ça va créer un choc thermique terrible et des réactions, ça va bouillonner dans tous les sens. Amen. Et voir la gloire du Seigneur, cela provoque dans la vie de l'homme. Moi, j'ai déjà entendu des histoires de gens qui disent « Oh, j'ai vu Jésus », comme il vous dirait j'ai vu le dernier film qui passe au cinéma, j'ai vu Jésus. Il le dit sur le même ton. En fait, ils n'ont rien vu du tout. Parce que quelqu'un qui voit Jésus, il est saisi. Il est tellement saisi. Saisi par la grandeur, par la gloire, par les choses de ce monde surnaturel que nous ne pouvons pas voir avec nos yeux. Amen. Ésaïe, c'est ce qu'il a vécu. Il a vu la gloire du Seigneur et du fait qu'il ait vu cette gloire, ça lui a donné de prendre conscience de lui-même. De lui-même, de qui il est, de qui il était. Quand il va voir ces choses, il va être lui-même aussi effrayé. Effrayé. Il va dire, malheur à moi, je suis perdu. Car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Voilà ce que cela produit. Et expérimenter Dieu, voir la gloire de Dieu, produit toujours ce genre de réaction dans la vie des hommes. Et c'est ce dont l'Église du XXIe siècle a besoin, d'être en contact, avoir ce choc thermique avec la gloire de Dieu, afin que prennent conscience de qui ils sont et de ce qu'ils font. On peut être un enfant de Dieu et vivre comme si on n'en était pas un. Amen. On peut être le fils d'un roi et vivre comme un brigand, vivre comme un mendiant, vivre comme quelqu'un de rien du tout. Mais tu peux être un enfant de Dieu et vivre comme un enfant de Dieu. Tu peux être le fils du roi des rois et vivre comme le fils du roi des rois. Et l'Église a besoin de cette visitation, de cette visitation de la gloire et de la sainteté de Dieu, afin de prendre véritablement conscience au fond de son cœur de tout ce qui ne va pas. Amen. Parce que vivre dans le mélange, vivre dans le compromis, c'est vivre dans un empoisonnement continuel. Continuellement, je bois des choses, je vis des choses qui ne sont pas justes, je le sais, mais je me dis, ce n'est pas grave, tout le monde fait pareil. Et je m'empoisonne, et je me rends malade, et ensuite on m'amène à l'hôpital spirituel. Là, je suis guérie, on me donne un peu de sérum, et je sors de là, et je recommence. Est-ce que on va passer toute notre vie dans ce genre de choses, ou est-ce que on a vraiment envie de passer aux choses sérieuses, aux choses véritables, aux choses puissantes? Amen. Jésus le dit dans cette parabole, quand il parle de l'histoire de l'économe qui a de grandes dettes, à cause de ça, son maître veut le renvoyer. Et il va bricoler quelque chose. Il y en a un qui doit un certain nombre de mesures d'huile, de blé, etc. Et il va écrire autre chose sur le billet parce qu'il ne veut pas que, quand une fois qu'il est renvoyé, ne plus se retrouver avec quoi que ce soit. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a bricolé quelque chose et c'était pas vraiment correct. Et le Seigneur dit que les enfants de ce siècle ne sont pas avisés. Ils ne sont pas sages, ils ne sont pas avisés. Et qu'on ne peut pas leur confier ce qui leur appartient. Amen. Qu'est-ce qui nous appartient? La gloire et la puissance de Dieu. La gloire et la puissance de Dieu, c'est ce qui nous appartient parce que nous sommes nés de nouveau. Mais ces choses ne peuvent pas être manifestées, elles ne peuvent pas nous être confiées, elles ne peuvent pas couler. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de péchés et de compromis, de mensonges, de pourriture, de manipulation, d'escroquerie, d'adultère, d'ivrognerie, de tas de choses. Des tas de choses comme cela. Moi, je ne suis pas là pour pointer qui que ce soit du doigt. Mais vous et moi, nous savons ces choses. Et chacun pour lui-même doit prendre conscience de ces choses. Et bien sûr, si on veut aller dans les mentalités religieuses, on va dire, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, mentir ce n'est pas bien, voler c'est un péché, et pointer du doigt des gens quand on sait qu'ils font des choses pareilles, mais généralement ceux qui pointent les autres du doigt, ils font pareil, et parfois même pire, mais simplement ça ne se sait pas. Et se pointer du doigt les uns les autres, ce n'est pas ce qui changera quoi que ce soit. Ce qui changera quoi que ce soit, c'est d'avoir cette visitation. Je ne dis pas forcément une vision, parce que nous n'avons aucune parole sur laquelle nous pouvons nous appuyer dans la Bible, aucune promesse qui nous dit que nous allons voir Jésus, avoir une vision de Jésus. Mais avoir cette visitation, oui, cette visitation divine, cette visitation du Saint-Esprit qui amène cette compréhension, cette prise de conscience. Et on peut avoir une prise de conscience dans notre tête et généralement on fait attention pendant 5 minutes, voire 2 jours, 3 jours, mais après tout recommence comme avant. Mais quand tu as une prise de conscience dans ton esprit, dans ton cœur, et que tu cries à Dieu et tu dis, Seigneur, change ma vie. Change ma vie est misérable, ma vie ne m'amène nulle part, je suis en train de m'empoisonner jour après jour, je ne vis pas, je survis, et encore ça ne va pas, ma vie ne va pas bien, je suis malade, je suis fatiguée, je suis faible, je suis découragée continuellement. C'est ce que Ésaïe a dit. Il a dit « Malheur à moi !» Parce qu'il a pris conscience. Il a réalisé vraiment, au plus profond de lui-même, ce qui se passait dans sa vie, qui il était. Et après cela, il a été changé. Amen. Il a été changé. Il y a des gens qui vous disent, de gauche, de droite, qu'ils ont vu Jésus. Ils voient Jésus continuellement. Ils disent, moi j'ai vu Jésus. J'ai une vision de Jésus. Et quand vous regardez leur vie, c'est lamentable. C'est pitoyable. Et en fait, ils ont dû voir Jésus dans leur imagination. Amen. Certainement pas dans la réalité spirituelle. Parce que s'ils avaient vu Jésus, ils seraient différents. Amen. Voir Jésus, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Et on n'a pas à faire ce genre de prière. Mais tu peux prier, dire « Seigneur, donne-moi de comprendre mon état. Donne-moi de réaliser vraiment où j'en suis. Parce que je suis fatiguée de ma vie. Je veux que ça change. » Et une fois que Ésaïe a fait cette expérience, c'est là où il a reçu un appel. Amen. Il a reçu un appel à ce moment-là. Une fois qu'il y a eu ce choc dans sa vie. Et en fait, on a vraiment besoin d'être secoué, d'être choqué par cette visitation, cette connaissance, cette rencontre, une nouvelle rencontre, une nouvelle visitation, une nouvelle expérience pour l'Église de Dieu avec la personne du Seigneur. Un changement profond, un changement véritable qui vient du ciel. Parce que personne ne peut se changer. Tu peux désirer changer, tu peux faire des efforts, et faire des efforts, c'est une bonne chose. Ne pensez pas que faire des efforts, c'est mauvais. C'est bon de faire des efforts, mais ce n'est pas sur nos efforts que nous devons compter, parce que nos efforts n'amèneront pas un changement vraiment de nature en nous. Notre nature est changée au travers de notre nouvelle naissance, mais dans notre âme, dans notre mentalité, il y a besoin d'un changement, d'une transformation que la parole de Dieu opère sous l'onction du Saint-Esprit. Amen. Et c'est ça que nous devons chercher. Nous devons chercher cette onction qui change, qui transforme, qui saisit nos vies. Quand on lit Luc, on va voir que là, Jésus est monté sur la montagne avec ses disciples pour prier. Et alors qu'il était en train de prier, il a été transfiguré. C'est dans l'évangile de Luc, au chapitre 9. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici, deux hommes s'entretenaient avec lui, c'était Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit « Maître, il est bon que nous soyons ici, dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir, et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit « Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. » Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence et ne racontèrent rien à personne en ce temps-là de ce qu'ils avaient vu. Jésus monte sur la montagne. Jésus, c'est quelqu'un qui était habitué à vivre dans la présence de Dieu, dans la présence du Père. Jésus, parce que quand on lit les évangiles, on voit que Jésus peut passer toute la nuit en prière ou se lever avant même que le soleil ne se lève et se lève pour aller prier, pour être dans la présence de Dieu. Jésus était habitué à vivre dans la présence de Dieu. Et on ne peut pas concevoir une vie de prière aussi profonde sans vivre dans la présence de Dieu. Sinon, c'est une vie de répétition, c'est une vie ennuyeuse et fatigante. Je pense que chacun d'entre nous, nous avons expérimenté cela, c'est-à-dire vraiment je veux prier, et tu pries, et tu pries. Et je me rappelle au début de ma conversion, on passait beaucoup de temps à prier, une heure ou deux heures à prier comme ça, et on priait pour mon père, pour ma mère, pour mon frère, pour ma sœur, pour telle personne, pour ma grand-mère, etc. On priait pour les gens, comme ça, les uns après les autres, et on priait toujours les mêmes choses. Et au bout d'un moment, on se fatiguait. Au bout d'un moment, on se fatiguait, parce qu'on répétait toujours la même chose, parce qu'on priait dans notre âme, parce qu'on n'avait pas de connaissance ni de compréhension des choses spirituelles. Et en fait, c'est ce qui se passe pour Pierre, Jacques et Jean. Jésus, de son côté, est dans la présence de Dieu. C'est là où il est transfiguré. Et vous voyez de l'autre côté, Pierre, Jacques et Jean. Quand Jésus a commencé à prier, ils ont bien dû commencer à prier, eux aussi. Mais au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Ils se sont endormis. Jésus est dans la gloire de Dieu. Les disciples sont en train de dormir. Et à un moment donné, ils se réveillent. Et quand ils se réveillent, ils sont saisis. Vous savez, quand Pierre dit « Dressons trois tentes !» D'abord, avec quoi il aurait dressé des tentes? Et sur la montagne, il ne devait pas y avoir grand-chose. En tout cas, il n'y avait même pas de tissu pour faire une tente, à moins qu'il ait pensé à aller couper des roseaux. Trois tentes, une pour Jésus, une pour Élie et une pour Moïse. Il était tellement effrayé, tellement saisi, qui ne savait même plus ce qu'il disait. Vous savez, Pierre, c'est quelqu'un qui voulait montrer qu'il est fort. Il ne pouvait pas dire « Oh, j'ai peur !» Il essaye de dire quelque chose, de faire quelque chose, mais ça n'a aucun sens parce qu'il est saisi et il a peur. Ensuite, il voit cette nuée. Ce n'est pas de la fumée, c'est la nuée, la gloire de Dieu qu'il couvre. Ils entendent la voix du Père. Ça, c'est une expérience inoubliable. Et bien des années plus tard, quand on lit dans la deuxième épître de Pierre, puisque la deuxième épître de Pierre a été écrite peut-être un an avant sa mort, puisque Pierre est mort en 67 après Jésus-Christ, et cette deuxième épître a été écrite en 66, donc un an avant sa mort, il va dire dans cette deuxième épître, chapitre 1, verset 16, ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Et là, il se réfère à cette expérience, bien des années après, cette expérience qu'il a faite en voyant Jésus sur la montagne de la Transfiguration. Vous et moi, nous tous, chrétiens du 21e siècle, nous avons besoin de voir Jésus, de voir sa gloire, non pas avec nos yeux, mais d'être touchés, d'être visités par sa présence, d'être saisis par sa sainteté, de comprendre qui il est vraiment, afin que plus jamais, nous soyons les mêmes, que ce que nous étions auparavant n'ait plus aucun rapport avec ce que nous sommes devenus, parce qu'il y a eu une révélation, il y a eu une visitation, il y a eu une compréhension. Amen. Passez une bonne journée.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.